Nous continuons donc notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. On est rendu au chapitre 5, les versets 13 à 20. Juste une petite remarque pour ceux qui écouteraient et qui suivraient dans une version comme la version Louis II. Moi, j'utilise la version pour les sermons. Souvent, les versets viennent de la version Osterval. Donc, nous, on dit chapitre 5, versets 13 à 20, mais dans la version Louis II, ça l'arrête à 19, mais c'est les mêmes choses, mais c'est juste, je ne sais pas pourquoi, historiquement, ça a été déplacé. En tout cas, juste pour que les gens ne s'imaginent pas qu'on a ajouté un verset aux Écritures. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Salomon qui continue son travail de démontrer aux gens qu'une vie sans la centralité de Dieu et sans l'obéissance des commandements est une vie vide de sens, est une vie, comme il le dit lui-même, vanité et poursuite du vent. Alors, on va regarder trois choses. On va regarder aujourd'hui la richesse, ses risques, ses frustrations et des recommandations. La richesse, ses risques, c'est versets 13 et 14. La richesse, ses frustrations, versets 15 à 17, et la richesse des recommandations, versets 18 à 20. Alors, on sait que Salomon fait tout simplement continuer de développer, dans le cinquième chapitre de l'Ecclésiaste, ce qu'il a démontré avec intelligence dans les quatre premiers chapitres, soit que c'est vanité que de poursuivre les expériences humaines et terrestres, sans la centralité de la crainte de Dieu et de l'obéissance à ses commandements. Alors, dans notre leçon la semaine dernière, nous avons fait la remarque sur le sens du mot vanité. Je pense qu'il est à propos de la répéter. C'est une remarque qui vient du pasteur Mario Veilleux, de l'Église réformée de Saint-Georges, qu'il a écrit dans un livre qui s'appelle « Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu ». Et avec sous-titre « Perles bibliques sur un thème inconnu mais capital ». Alors, il dit, par exemple, lui, quant à la définition, le sens qu'on doit donner au mot « vanité » dans le contexte du livre de l'Ecclésiaste. Il dit « Vanité des vanités est un superlatif hébraïque qui veut dire « suprême vanité ». Le mot « vanité » évoque les idées suivantes. Une nuée qui s'évanouit, une buée, l'inconstance, la fragilité, un souffle, une muraille qui flanche, un mur qui se renverse, la futilité, rien n'est digne de confiance, rien n'a vraiment de poids. Aucun effort n'aboutira à une satisfaction durable. Les joies les plus profondes sont fugitives. » Alors, si on garde ça à l'esprit, quand on étudie le livre de l'Ecclésiaste, on voit que le mot « vanité » a un sens assez précis. Alors, Salomon a illustré que la vanité et la poursuite du vent sont manifestées par les tentatives futiles des hommes de connaître le bonheur terrestre sans que Dieu soit obéi et craint. Par exemple, il l'avait illustré par le fait qu'on voit que il y a d'immenses déceptions pour ceux qui croient en la sagesse humaine comme moteur de leur vie et qui la surévaluent. On avait vu aussi qu'avait démontré que les joies éphémères des plaisirs terrestres n'apportent pas de réelle satisfaction. Il avait aussi démontré que la justice terrestre est pervertie et abusée, comme on peut l'observer en voyant les oppressions, les exploités et les pauvres de la terre. Il avait aussi démontré, illustré, que les humains surestiment la liberté de leurs décisions et ignorent les mystères des voies providentielles de Dieu et de l'inévitabilité de la mort. Alors l'Ecclésiaste, au Autrement dit, le mot ecclésia, ça veut dire prédicateur. Donc, le prédicateur veut poursuivre en donnant des conseils basés sur son observation. Dans les 12 premiers versets du chapitre 5, il a d'abord proposé des conseils sur trois sujets qu'on a vus la semaine dernière. L'adoration, la gouvernance et l'avidité. Il va maintenant continuer sa démonstration en faisant de sages observations sur les risques de la richesse, ses frustrations et également des recommandations sur ces sujets-là. Alors, on va regarder d'abord la richesse et risques, versets 13 et 14. Alors, on relit le verset 13. Alors, il dit, « Il y a un mal fâcheux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. » Alors ici, un des risques de la richesse est celui du danger de la facilité à faire du mal. Bien sûr, plus une personne est dans l'opulence, plus une personne est dans la richesse, plus il peut avoir d'occasions qui se présentent à lui pour faire du mal. Alors, les riches, en général, soit dans les temps passés ou soit encore aujourd'hui, vont déposer dans des granges et des greniers les fruits de la terre ou dans des coffres comme de l'or et de l'argent pour leur usage et qui pourront tourner à leur préjudice, étant utilisés par eux dans la luxure et l'intempérance. On sait que ceux qui sont riches, souvent, vont tomber dans ces deux péchés-là, la luxure et l'intempérance. Alors, en faisant ça, ils ont apporté des maladies à leur corps et la possible damnation sur leurs âmes. Ils n'ont pas utilisé les richesses pour leur propre bien ou pour le bien des autres, ce qui amène la malédiction de Dieu sur eux, leur ruine et leur destruction, à la fois ici et dans l'au-delà. C'était souvent le cas, comme l'avait sans doute observé le sage Salomon. Les grands avares ont accumulé leurs biens sans les utiliser eux-mêmes ni les partager avec d'autres. Il est arrivé que non seulement ils en ont été dépouillés, mais à cause d'eux, leur vie a été enlevée de la manière la plus barbare par des méchants, parfois par leurs propres serviteurs et parfois par leurs propres enfants. Les richesses mal acquises et mal employées sont très préjudiciables à leurs propriétaires. Et si elles ont été bien acquises, mais mal utilisées, ou pas du tout utilisées, elles peuvent nuire grandement à leurs propriétaires quant à leur état spirituel éternel, mais également à l'état spirituel éternel d'autres hommes. C'est une chose difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, et un homme cupide ne le peut pas. Il subit maintenant beaucoup de douleurs et est passible de la damnation éternelle par la suite. Donc, le premier danger, le premier risque, c'est le danger de la facilité à faire du mal. Le deuxième, c'est le danger d'être victime du mal. Dans la première partie du verset 14, 14a qu'on pourrait dire, et ses richesses périssent par un mauvais trafic. Donc, les richesses qui ne sont pas bien acquises ou qui ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être se perdent et ne servent à rien, soit par leur mauvaise gestion, par la mauvaise gestion du propriétaire et son inconduite dans le commerce et les affaires, ou par le feu, la tempête, les voleurs et les brigands, et bien d'autres voies et moyens amenés par la Providence. Il y a diverses manières par lesquelles elles se font des ailes, des richesses, et s'enfuient sous la direction de la Providence divine. Alors, quand il dit que ces richesses périssent par un mauvais trafic, une mauvaise utilisation amène qu'ils peuvent tout perdre, comme on peut l'observer dans la vie de personnages qui sont devenus riches sur la terre, mais qui ont fini par tout perdre. aussi le danger de priver ses héritiers. Donc, quelqu'un peut accumuler des richesses, mais s'il l'utilise mal et que les circonstances font en sorte qu'il perd tout, il prive par le fait même ses héritiers de ce qu'ils auraient pu hériter. Parce que dans le verset 14, la deuxième partie du verset 14, il dit « S'il engendrait un fils, il n'aura rien entre les mains. » Alors, les richesses qu'il avait amassées et prévues comme héritage pour son fils, il risque de s'en voir dépouillé par un moyen ou par un autre. Et s'il vient à mourir, il n'a plus rien à laisser à son fils. Ou si ses richesses ne périssent pas de son vivant, cependant, elles seront bien vite consommées par son fils, qui en peu de temps n'aura plus rien pour vivre. On voit ça souvent, des jeunes qui héritent de la richesse de leurs parents et qui, à cause de leur mauvaise gestion, finissent par tout perdre. Et alors, c'est quelque chose de très, très triste. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est la richesse, ses frustrations. Alors, dans les versets 15 à 17, on va voir plusieurs frustrations qui sont amenées par la possession de la richesse. La première frustration est celle de la dépossession par la mort. Bien sûr, quelqu'un qui a accumulé de l'argent ou des biens toute sa vie, quand il meurt, bien entendu, il ne peut rien apporter avec lui et il est dépossédé. Verset 15, ça nous dit, « Et comme il est sorti nu du sein de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu, et il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. » Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. N'importe qui a déjà vu un riche décédé, et on sait qu'il ne peut pas apporter rien avec lui. Quand les riches viennent à mourir, bien entendu, ils seront dépouillés de tous leurs biens, tout leur argent, de leur or, de leurs biens précieux, de leurs bijoux, de leurs riches maisons, de leurs meubles, de leur bétail, de leurs possessions, de leurs fermes et domaines, et même de leurs vêtements. Ils quitteront ce monde en étant aussi nus qu'ils étaient quand ils sont venus au monde. Ce sera le cas de tout homme. On l'avait vu, c'est quelque chose qui avait été mentionné dans le livre de Job, au chapitre 1, verset 21. Alors Job, il dit, et, verset 21, et il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Alors le riche, sa fortune qu'il a acquise par son travail, est amassée avec beaucoup de soin. Il ne pourra en apporter la moindre portion avec lui quand il mourra. Il ne pourrait sauver son âme de l'enfer, ni lui procurer une entrée dans la gloire céleste. On sait que l'argent n'aura aucune valeur pour empêcher. Quelqu'un ne pourra pas payer pour ne pas aller en enfer, puis il ne pourrait pas non plus payer pour entrer dans la gloire céleste. Parce que les Écritures disent que ça serait très insuffisant. On lit par exemple dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 10, qui nous parle un peu des choses concernant notre devoir face à et notre comportement face à la richesse. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Alors la première frustration, c'est celle de la dépossession par la mort, dans le verset 15. Dans le verset 16, c'est la frustration d'avoir travaillé pour du vent. Verset 16, on le relit, c'est encore ici un mal fâcheux. Comme il est venu, Il s'en va de même. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour Durand? Alors, il vient un temps dans la vie où les circonstances que Dieu envoie dans la vie du riche, et il se rend compte qu'il a travaillé pour Durand. Alors, les hommes non régénérés naissent dans le péché et meurent dans le péché. Les hommes régénérés viennent au monde avec le péché, mais en sortent sans lui, étant lavés dans le sang de Christ, justifiés par sa justice, et tous leurs péchés expiés et pardonnés par son sacrifice. Ils naissent sans justice, mais ne meurent pas sans justice. Christ a opéré pour eux une justice éternelle qui leur est imputée, reçue par la foi. Ils naissent sans la sainteté, mais ne vivent ni ne meurent sans elle. Ils sont régénérés et sanctifiés par l'Esprit de Dieu, et au moment de la mort, rendus parfaitement saints. Les richesses sont aussi insatisfaisantes que le vent. Elles sont changeantes et promptes à s'enfuir. En particulier, quel profit un homme a-t-il de toutes ses richesses qu'il a obtenues par le travail lorsqu'il ne s'en sert pas dans la vie pour son propre bien ni pour le bien des autres? Quand il meurt, elles le quittent et ne lui servent plus. Et ayant été insouciant de son âme immortelle, à quoi lui a servi de poursuivre des choses aussi vaines et passagères? Donc, la première frustration, la dépossession au moment de la mort. La deuxième, la frustration d'avoir travaillé pour du vent. Une réalisation bien pénible et bien douloureuse. Et la troisième, dans le verset 17, la frustration des souffrances. Verset 17. Ça dit, il mange aussi tous les jours de sa vie dans les ténèbres. Il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Alors, Salomon mentionne un autre mal, celui qui accompagne ceux dont le cœur est démesurément attaché aux richesses. Tous les jours de leur vie, ils vivent des expériences des plus inconfortables. L'expression qui est dans le verset ici, « ils mangent », est ici mise pour toute leur manière de vivre, avec angoisse et détresse d'esprit, sans plaisir ni joie réelle, et encore moins avec la lumière du visage de Dieu, et des découvertes de son amour et de sa communion. Ses souffrances sont nombreuses. La maladie de son esprit, la maladie de son corps, le chagrin et l'indignation parce qu'il ne pourra plus vivre dans le but d'accumuler plus de richesses et d'accomplir ses projets et ses desseins. Il doit laisser sa richesse qu'il a eu tant de mal à accumuler. Il est aussi en colère quand les choses ne se réalisent pas selon ses désirs ou quand sa substance ou sa richesse diminue ou n'augmente pas comme il le désire. Il expérimente la maladie, soit du corps, soit de l'esprit, soit les deux, parce que les choses ne réussissent pas comme il le voudrait. Il est submergé par l'irritabilité due à des pertes ou due à des déceptions. Il est prêt à accuser ses proches de paresse ou d'infidélité envers lui. Il est amer lorsqu'il considère que la providence de Dieu ne lui donne pas le succès désiré. Il n'éprouve plus de plaisir et de réconfort dans la vie. Alors, dans la troisième partie, c'est vraiment l'idée de la richesse que Salomon va faire des recommandations. Donc, la richesse des recommandations du verset 18 au verset 20, ce sont des recommandations du sage Salomon. Alors, il y a, dans le verset 18, la première recommandation, c'est celle du contentement. Il dit, « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et agréable que de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail auquel il se livre sous le travail, pendant les jours de vie que Dieu lui a donnés. C'est là son partage. Donc, on peut déduire de cela que l'homme doit utiliser les dons de Dieu, qui sont, selon le texte ici, manger, boire, bien-être et travail, pour le service d'une manière libre et libérale, sans excès et avec modération. Donc, autrement dit, le Seigneur, c'est lui-même qui a laissé à l'homme le manger, le boire, le bien-être dans sa vie et le travail qu'il lui donne. Et il se doit de les utiliser sans excès et avec modération, mais en jouissant. Il n'a pas à se priver des choses auxquelles il peut légitimement participer et qui lui sont nécessaires. Cela est bon pour lui-même et pour la santé de son corps et est juste aux yeux de Dieu et convenable devant les hommes. C'est non seulement licite, mais louable. Tout bien obtenu par le travail est un don de Dieu. Tous les jours d'un homme sont aussi un don de Dieu. C'est son partage et il doit les utiliser avec gratitude et joie. C'est important ici de réaliser que le Seigneur permet qu'on jouisse de plusieurs choses, mais c'est lui qui nous les a données, à la fois le manger, le boire, le bien-être et le travail, et aussi le nombre des jours qui nous est alloué. C'est aussi un don du Seigneur lui-même. Alors, la première recommandation, donc, c'était celle du contentement. La deuxième recommandation, verset 19, c'est celle de jouir du don de Dieu. Dans le verset 19, ça dit « En effet, ce que Dieu donne à tout homme de richesse et de bien, dont il le fait maître pour en manger et pour en prendre sa part et pour s'en réjouir au milieu de son travail, cela est un don de Dieu. » Donc, le verset 18, c'est vraiment l'idée de se contenter de ce que Dieu envoie. Le verset 19, c'est vraiment l'idée de que Dieu envoie ces choses-là à l'homme dans le but qu'il en jouisse. Donc, le don de Dieu comprend l'ensemble de la richesse d'un homme, tous ses biens personnels et immobiliers, toutes ses possessions, meubles et immeubles, comme l'or, l'argent, le bétail, les champs et les fermes. Ce sont tous des dons de Dieu. C'est le Seigneur qui le fait maître sur sa richesse. Et l'homme ne doit pas en être l'esclave comme beaucoup le sont. L'homme doit avoir le contrôle sur eux et aussi sur lui-même pour en jouir confortablement, à la fois pour son propre bien et aussi pour le bien des autres hommes et pour la gloire de Dieu. La troisième recommandation, c'est celle de la joie du cœur, dans le verset 20. Verset 20 dit, « Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu lui répond par la joie de son cœur. » L'homme ne devra pas penser que la vie est longue et fastidieuse. Il ne devra pas non plus s'attarder sur les problèmes qu'il a rencontrés ou qu'il est susceptible de rencontrer, ni même s'en affliger. Il devra être content des bonnes choses que Dieu lui a données et en jouir librement et joyeusement et vivre le temps qui lui a été divinement alloué et de le faire de façon agréable. L'homme doit demander à Dieu de bénir ses travaux et lui demander sa nourriture quotidienne et ce qui peut lui être nécessaire ou ce qu'il juge nécessaire et commode. Dieu répondra à ses prières, à ses requêtes et à ses bons souhaits en remplissant son cœur de nourriture et de joie. Le Seigneur lui donnera cette gaieté d'esprit et cette reconnaissance de cœur par la jouissance de chaque bénédiction. Dieu lui accordera la joie dans le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce qu'on a examiné très rapidement, on peut faire trois applications, je crois, de ce texte-là. On pourrait en faire beaucoup plus, mais on va regarder ces trois-là principalement. La première application. Demandons au Seigneur de nous faire pleinement réaliser les risques de la richesse. Implorons-le également de bien la vivre s'il l'a providentiellement prévu dans nos vies. Alors, la générosité envers les autres, le fait de ne pas s'y attacher et aussi obéir à ses commandements et craindre Dieu. Deuxième application, soyons conscients que la richesse apporte son lot de frustrations. La peur de perdre ses avoirs, la souffrance causée par les exploiteurs et la jalousie, la précarité et la fragilité, le chagrin, les maux, l'irritation et l'insatisfaction. Alors, troisième application, pratiquons donc le contentement. Jouissons des dons que Dieu nous a accordés, mais dans la reconnaissance, dans la sobriété et dans la joie. Que l'Éternel soit loué et adoré pour sa grâce et sa sagesse infinie. Gloire à Christ pour son œuvre glorieuse. Amen.